Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». On dit souvent que l'histoire ne se répète pas, mais quand on regarde un peu en arrière, on se rend compte qu'en fait, on retrouve des problèmes qui sont toujours d'actualité et qu'on n'a pas forcément senti venir sur le moment. Et c'est pourquoi je voudrais évoquer ici les années 1970-1980, à travers quelques événements qui ont marqué l'actualité, mais bon, qui n'ont pas forcément marqué les mémoires. Alors, si on commence en 1970, je voudrais évoquer un drame qui a beaucoup frappé les gens à cette époque. C'était le 1er novembre 1970, à Saint-Laurent-du-Pont, commune de l'Isère, une boîte de nuit, le 5-7, prend feu. Il y aura 146 victimes âgées de 14 à 27 ans. Et l'enquête déterminera que les issues de secours avaient été bloquées. Sans doute pour faciliter la circulation, je ne sais pas. Toujours est-il que ces victimes sont bel et bien mortes à cause des responsables de la boîte de nuit. Une chose dont on n'a pas forcément beaucoup parlé à l'époque, le 4 mars 1970, 57 hommes à bord du sous-marin Eurydice disparaissent corps et biens. Mais 1970, c'est peut-être avant tout, du moins dans l'esprit des Français, l'enterrement du général de Gaulle. Le 12 novembre 1970, à Colombey-les-Deux-Églises, il est mort le 9 novembre chez lui, à la Boisserie, à ses côtés, son épouse, née Yvonne Vandroux. Le général a voulu un enterrement à son idée. Et ce sont des garçons du village qui ont entouré le char sur lequel était placé le cercueil du général. Alors, bien sûr, on peut penser ce que l'on veut aujourd'hui du général de Gaulle, mais c'est quand même une figure qui a marqué son siècle. Une figure qui a donné à la France une dimension qu'elle avait perdue, notamment après la défaite de 1940. Il ne faut pas oublier quand même que c'est lui qui, par le référendum de 1958, a instauré la Ve République sous laquelle nous vivons encore. C'était quelqu'un finalement d'assez, on peut dire, exceptionnel. Et je ne résiste pas au plaisir de rappeler quelques-uns de ces mots, quelques-unes de ces phrases qui ont fait couler beaucoup d'encre par la suite. Il y en a une qui me plaît particulièrement. Lorsqu'il disait « Pour être président de la République, il faut être intelligent, ça ne gâte rien. » Mais c'est loin de suffire. Pour occuper cette fonction, il faut avoir de la volonté et du courage. On croirait qu'elle a été écrite pour certains de ses successeurs. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a dit que De Gaulle était le représentant de la grande bourgeoisie, etc. C'est quand même lui qui a instauré en France le droit de vote pour les femmes en 1944. C'est, alors qu'il était président, qu'a été votée une première réforme importante dont on ne parle plus beaucoup. C'était en 1965. Le droit d'utiliser la pilule contraceptive. On était loin encore de l'interruption volontaire de grossesse. Il faut se rappeler aussi, si on veut garder en mémoire la personnalité du général de Gaulle, il avait instauré un système auquel il s'est tenu pendant tout son mandat, c'est le système des conférences de presse. Et là, lorsqu'on a l'occasion de revoir certaines de ces conférences de presse, on ne peut qu'être frappé par une chose, il répond sans notes, sans consulter de papier. La raison était simple, il avait un problème de vision et il ne pouvait pas porter de lunettes. Mais quand même, ça avait une classe, une dimension. Et je voudrais conclure avec une des réflexions qu'il a eues au cours d'une de ses conférences de presse. Il a dit aux journalistes présents, « Je ne vais pas mal, merci, mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. » Je vous propose une première pause musicale. 1971, en Iran, a lieu une cérémonie grandiose pour fêter le 2500e anniversaire de l'Empire perse. Les commandements se sont déplacés, ils ont admiré les toilettes de l'impératrice, la prestance du Shah d'Iran, qui sans doute ne se doutait pas à ce moment-là que 8 ans plus tard, en 1979, il allait abdiquer sous la poussée des troupes de l'imam Khomeini. En 1972, il y a eu une affaire qui a fait la une de la presse pendant des mois. Le 5 avril, la jeune Brigitte de Vèvre, qui habite Bruay-en-Artois, qui a 6 frères et sœurs, d'une famille de mineurs, la région est assez sinistre de ce côté-là, la jeune Brigitte de Vèvre est assassinée. On retrouve son corps, et un juge fait son apparition dont on allait beaucoup parler. Certains l'ont appelé le petit juif, il s'appelait Henri Pascal, il avait 51 ans. Il était très bavard, très fanfaron. Et lorsqu'il a vu que la presse nationale s'intéressait au cas, il n'a pas pu s'empêcher d'utiliser, de vouloir utiliser la presse. Et il se trouve que non loin de l'endroit où la petite a été assassinée, on a vu une voiture, c'était la voiture de Pierre Leroy, un homme d'affaires, puissant, rotarien en plus. Et évidemment, on a fait le rapprochement sans avoir aucune preuve. Et la presse a commencé à se déchaîner. Alors, on a vu arriver un journaliste qui allait pas tarder à prendre du galon, qui s'appelait Serge Julie. On a vu un professeur qui s'appelait François Ewald, qui a fait signer des pétitions contre le notaire. On a vu des choses incroyables. On a vu la cause du peuple, dirigée par Jean-Paul Sartre. On a vu Simone de Beauvoir prendre position dans cette affaire dont, évidemment, il ne connaissait rien du tout. Le notaire a été emprisonné. Sa compagne, qui est devenue, entre-temps, son épouse, a été emprisonnée également. Et tout cela sans l'ombre du début de la moitié du commencement d'une preuve. Alors, bien sûr, le notaire et son épouse, enfin, sa fiancée à l'époque, puis son épouse ensuite, ont été libérés, bien sûr. On leur a versé des aides d'indemnité, mais comment indemniser le mal qui avait été fait ? Malheureusement, ce genre d'affaire n'était que le prélude à d'autres affaires tout aussi retentissantes. Et quand je pense qu'un journal, comme La Cause du Peuple, a osé écrire à propos « Il n'y a qu'un bourgeois pour avoir fait ça », on se pose des problèmes parfois sur l'intelligence de certains journalistes.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again.
when they all should let us be. We belong to you and me.
I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior.
Et 1973, c'est aussi le début d'une affaire qui allait amener pour la première fois dans l'histoire du monde la démission du président des États-Unis. Il s'agit de l'affaire du Watergate. Deux journalistes, Carl Bernstein et Bob Woodward, journalistes au Washington Post, ont commencé à publier des informations qui leur étaient fournies par quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas à l'époque, qui s'appelait Gorge Profonde. En fait, on a su qu'il s'agissait du numéro 2 du FBI, Mark Fell. Et cette affaire qui a commencé en 1973 s'est terminée en 1974 avec la démission de Richard Nixon. Il y avait aussi, début 73, on a retrouvé les survivants d'un crash d'avion dans la cordillère des Andes. Et sur les 45 passagers, il y avait 16 survivants qui ont reconnu par la suite que pour survivre, ils avaient dû manger les corps de leurs camarades décédés. Et avant de tourner la page sur ces années-là, je vous propose simplement un extrait de l'histoire de Bruet-en-Artois. Lorsque le magistrat interroge celui qui considère d'emblée comme le coupable, Pierre Leroy, et lorsqu'il lui demande des détails sur son emploi du temps dans la journée où la petite Devèvre a été assassinée, il répond « Comment voulez-vous que je me rappelle à une minute près ce que je faisais il y a une semaine ?» Et sur le procès-verbal de l'audition, il y a écrit « Je refuse de dire mon emploi du temps au moment des faits. » Il y a de quoi quand même être surpris par ce genre de choses. Signalons en 1973 un épisode qui, ma foi, n'est pas sans intérêt. Le vol du cercueil du maréchal Pétain, enlevé par ses partisans pour être amené à Douaumont. Le cercueil regagnera sa place. Si vous voulez bien, l'année 1974, avec une anecdote, sûrement oubliée par la plupart, mais qui me semble savoureuse et intéressante. Le 9 mars 1974, un lieutenant japonais, le lieutenant Onoda, se rend et cesse le combat qu'il n'avait cessé de mener depuis 29 ans que la guerre était terminée. Il se trouve que Il avait échoué. Ils étaient 4 marins survivants. Ils avaient échoué sur un îlot des Philippines. Ses camarades étaient morts, il était tout seul. Et finalement, il a été repéré. Il a accepté de se rendre à son ancien chef. Il avait 51 ans. La même année en France, la majorité passe à 18 ans. Cela a sans doute changé certaines choses dans les données politiques. Or, j'allais oublier. J'allais oublier, en 1974, on annonce, enfin, certains journaux annoncent l'invention du moteur à eau. L'invention du moteur à eau par un garagiste de Rouen. Très vite, il s'avérera que c'était une bêtise. Proposer une pause musicale. Voici en 1975, au Cambodge. Au Cambodge, le 17 avril, les Khmers rouges prennent le pouvoir et investissent la capitale, Phnom Penh. À l'époque, un quotidien national réputé pour son sérieux n'hésite pas à écrire, l'enthousiasme populaire est évident. En fait, le soir même, les Khmers rouges font évacuer la ville de Phnom Penh. Et c'est le règne sanglant de Pol Pot. Un règne qui va durer jusqu'en 1979. Il y aura 1 500 000 victimes. Parfois exécutées, non pas avec des balles, parce que les balles de fusil coûtent cher, mais à coups de pelle, de pioche. Et on peut se dire que là, les gens bien informés sont passés complètement à côté de la réalité. 1975, c'est peu de temps après l'occupation du Cambodge, c'est la chute du Sud-Vietnam, les gens sont évacués avec l'aide des Américains, et c'est aussi le vote d'une loi dont on parle encore et plus que jamais, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, dite loi Simone Veil. Avançant dans cette décennie, je voudrais évoquer un autre fait divers, tragique et même épouvantable. C'est l'assassinat d'un enfant de 9 ans un enfant de 7 ans qui s'appelait Philippe Bertrand. Il a été enlevé, étranglé par Patrick Henry. Et lorsque le meurtrier est passé en jugement, son avocat était Maître Robert Badinter, contrairement à ce qu'on pensait, il n'a pas été condamné à mort. Pour avoir une condamnation à mort, il fallait 8 voix dans le jury, il y en a eu 7. Et Patrick Henry a, comme on dit, sauvé sa tête. Alors, à côté du cas de Patrick Henry, avant l'abolition de la peine de mort en 1981, il y a eu l'affaire Christian Ranucci, condamné à mort pour l'enlèvement et le meurtre de Marie Dolores Ramila, de 8 ans. Et Christian Ranucci a été guillotiné le 28 juillet 1976 à Marseille. Sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, 2 autres condamnés à mort ont été guillotinés. Mais évidemment, il y a aussi à côté de ça l'apparition de phénomènes de société. Par exemple, une chose qui nous paraît tellement évidente, c'est à ce moment-là qu'apparaît le baladeur, devenu le Walkman, puisque la marque est devenue le sigle. Et puis, il y a des gens qui disparaissent. Il y a André Malraux, Jacques Brel, Jean Gabin, Charlie Chaplin, Bourville, John Wayne. Or, pendant ce temps, Alain Delon et Mireille d'Arc vivent le parfait amour. Et puis, il y a aussi, en 1978, la mort de Claude François avec toutes les rumeurs infectes qui l'ont accompagné. La disparition en 1967 d'Elvis Presley. Il y a la mort de Jim Morrison, mort d'une overdose, comme Janis Joplin ou Jimi Hendrix. Et à la télé, pendant ce temps, l'émission la plus populaire, je pense, c'est le petit rapporteur. Tous les dimanches, à 13h20, le petit rapporteur animé par Jacques Martin, avec Philippe Desproges, Pierre Brondt, Stéphane Collaro, Piem, Daniel Prévost, et leur rengaine, la pêche aux moules. Et si vous vous rappelez ces émissions-là, on peut dire qu'ils osaient dire certaines choses qu'aucun journaliste télévision aujourd'hui oserait dire. Et c'est peut-être pour ça qu'ils terminent toujours leur émission en disant « à dimanche prochain, peut-être ». Et il y avait aussi, parmi les choses ridicules qui font sourire aujourd'hui, mais qui finalement sont peut-être plus graves, plus sérieuses qu'on croit. Il y a ce comble de ridicule snobinard qu'est le couronnement de Bokassa Ier. Il est couronné, il était président, et puis là, il est couronné empereur, sous le nom de Bokassa Ier. Et 2 ans après, il a été chassé par un coup d'éclat. Alors, peut-on vraiment faire confiance à l'actualité d'aujourd'hui quand on voit à quel point, par beaucoup de côtés, elle se rapproche de celle de ces années-là? Et lorsqu'on réalise que les gens qui ont vécu ces années-là n'ont pas compris vraiment ce qui se passait, puisque les choses se sont reproduites presque à l'identique. Je vous remercie de m'avoir écouté.